24 heures après l'inculpation de Maître Leroy, la population de Bruyères-en-Artois, stupéfaite, n'arrive pas encore à y croire. Comment cet homme, ce notable, puissant et respecté, aurait-il pu assassiner à coups de hache une jeune fille de 16 ans sans défense? Maître Leroy et la famille de Brigitte étaient bien sûr presque voisins, mais jamais ils ne s'étaient adressé la parole. Ils n'étaient pas du même monde.
Le meurtre sauvage d'une adolescente dans une cité minière du Pas-de-Calais, en avril 1972, suscite une immense émotion. Quand un notable de la ville est suspecté, l'affaire prend une ampleur nationale.
Vous écoutez Fait d'hier, le podcast du magazine Femme Actuelle Senior. Chaque semaine, nous nous replongeons avec vous au cœur des grandes histoires criminelles. Dans cet épisode, l'affaire de Bruyères-en-Artois.
Toutes les affaires de Brigitte sont là, éparpillées autour d'elle. Sa tunique noire et blanche, son chandail vert, son pantalon marron. Tout, sauf ses lunettes de myope bon marché, qu'elle n'enlève pourtant jamais. Il y a aussi ce manteau gris, jeté autour du corps nu et martyrisé de l'adolescente. Léon Devèvre le reconnaît immédiatement. C'est celui de sa fille. Comme tout le monde dans le quartier, il est venu voir ce qui se passait sur le terrain vague. Depuis le début de l'après-midi, des bruits couraient dans le coron. Une bande de gamins qui jouaient au foot avait découvert un cadavre de jeune fille sous les feuillages, dissimulé par un pneu. Pâques 1972. C'était pourtant un jeudi tranquille du début des vacances, à Bruyères-en-Artois, une petite bourgade minière du Pas-de-Calais. Ici, depuis des générations, les hommes passent une grande partie de leur vie sous la terre. La ville vit au rythme de la sirène qui annonce leur remontée du puits. Leurs femmes attendent, jamais tranquilles. La mine ne va pas bien. On parle de la fermeture des houillères et les emplois sont menacés. L'avenir s'écrit en noir, comme la gueule des mineurs qui ont trimé dur pour extraire le charbon, les poumons brûlés par la silicose. C'est le quotidien de Léon Devèvre et de son épouse Thérèse. Ils habitent rue de la Comté, près de la fosse où travaille Léon, dans une petite maison de briques semblable à toutes les autres. Ils ont 7 enfants, dont Brigitte, 15 ans. La veille, comme tous les soirs, elle est allée passer la nuit chez sa grand-mère. « Mémère », comme elle l'appelle. Brigitte n'est pas pressée ce soir-là. Il fait bon. Elle a envie de papoter avec sa copine Micheline, qui habite juste en face. Les deux amies s'assoient sur une pierre. C'est comme ça qu'on appelle les marches devant les maisonnettes des corons. Le jeune Jean-Pierre Flao, qui fume une cigarette, se joint à elle. Il serait vaguement amoureux de Brigitte. Pas elle. Les deux amies discutent un moment, puis Micheline rentre chez elle. Brigitte dit au revoir à sa mère et part chez sa grand-mère. Dans le quartier, tout le monde la connaît. C'est une chouette fille, une chtiotte, une petite brune aux cheveux courts, pas spécialement jolie, un peu réservée. En tout cas, pas une gamine à problème.
Vous la connaissiez, vous ?
Oui, moi je la connaissais, c'était une de mes anciennes copines.
Oui, comment est-ce qu'elle était ?
Elle était assez lancée, quoi.
Oui.
Forte.
Timide.
Enfin, fort timide, oui.
Pourtant, la jeune fille n'arrivera jamais chez sa grand-mère. Après avoir quitté sa copine Micheline, plus personne ne la verra. Sauf un témoin, Dominique Roger. À 19h42, cette préparatrice en pharmacie l'aperçoit rue de Ranchicourt en compagnie d'un homme athlétique en col roulé gris. Le couple discute. Quand elle passe à côté d'eux, ils interrompent leur conversation. Dominique Roger en est certaine. C'est bien Brigitte qu'elle a vue. Si elle dit vrai, elle est la dernière personne à l'avoir croisée vivante. Sur le terrain vague où les gosses du quartier ont trouvé le corps, les flics sont enfin à pied d'œuvre. Ils ont mis du temps. La foule des badauds les a précédés, et le journaliste local est déjà sur place. Brigitte est étendue, dénudée, sale, le visage cyanosé. Elle a subi un martyr inimaginable, avant et après sa mort. Elle a le crâne presque scalpé, plein de terre dans les cheveux et des ecchymoses sous le menton. Des plaies profondes sont aussi visibles sur son front, sa nuque et sous un sein. Son dos est couvert de griffures. Les policiers ratissent les lieux, en vain. Ils ne découvrent aucune arme. Il faut dire que la scène de crime a été piétinée par les curieux. Des indices ont certainement disparu, mais à l'époque, on ne pose pas de cordon de sécurité ou de bâche protectrice. L'autopsie révélera qu'après avoir été étranglée avec un foulard ou une écharpe, Brigitte aurait été traînée dans les ronces. Dans son estomac, le légiste retrouve des traces de l'orange qu'elle a attrapée chez elle vers 17h30, juste avant de quitter la maison. D'après la composition du bol alimentaire, le médecin situe l'heure du décès 2 heures après l'ingestion du fruit. Ces premiers éléments apportent quelques explications. Mais il reste une foule de questions auxquelles les enquêteurs doivent répondre. Qu'a fait Brigitte entre 17h30 et le moment de sa mort? Où est-elle allée? Qui a-t-elle croisé? Et pourquoi n'a-t-on découvert sa dépouille que le lendemain? Une chose est certaine, la jeune fille n'a pas subi de violence sexuelle et elle n'est pas morte sur ce terrain vague. Il a plu durant la nuit. Pourtant, son corps et ses vêtements sont secs. Aussitôt, le procureur de la République nomme le juge Henri Pascal pour mener l'instruction. L'officier de police judiciaire, désigné pour superviser les investigations, commence l'enquête de voisinage. Tout le coron veut qu'on attrape le salaud qui a fait ça. Les témoignages affluent. Celui de Chantal Leroy intéresse particulièrement les policiers. La veille, cette infirmière a passé la soirée chez ses parents pour regarder le match. Leur maison se trouve rue de Ranchicourt, à quelques mètres de l'endroit où Brigitte a été aperçue pour la dernière fois. Comme chez presque tout le monde à Bruay ce soir-là, la télévision est allumée à l'heure du dîner. Les rues sont désertes. Ceux qui ne regardent pas le foot sont rivés devant les dossiers de l'écran. Quand Chantal Leroy veut se garer, une Peugeot 504 blanche occupe sa place habituelle. Le conducteur ne doit pas être du quartier, parce que dans le coron, ces choses-là ne se font pas. Chantal est agacée. Dans la soirée, elle vérifie plusieurs fois si la Peugeot a bougé. À 20h10, elle remarque une silhouette à la place du conducteur et se dit que le type va partir. Mais à 20h30, l'automobile est toujours là. Exaspérée, elle va sonner chez le voisin d'en face. Mais lui aussi ignore à qui appartient la voiture. Chantal fait le tour du véhicule, inspecte l'intérieur par les vitres. Elle distingue un sac de sport, des raquettes de tennis. Machinalement, elle relève le numéro d'immatriculation. Quand elle se couche, la Peugeot est toujours là. Vers 23h, elle l'entend démarrer. Grâce au numéro de plaque communiqué par Chantal, les enquêteurs identifient rapidement le propriétaire. Il s'agit de Pierre Leroy, notaire à Bruay. Il est convoqué pour le lendemain, vendredi 7 avril. Leroy est un bourgeois, un notable. Il fait partie du Rotary. Il possède une villa au Touquet, un bateau, des terres, des chasses. Il connaît du monde. C'est une personnalité. Il a même été en charge de la reconversion des houillères. Riche, célibataire, un peu timide, un peu chauve, un peu bourru, à 37 ans, il vit encore chez sa mère. Son interrogatoire commence. La police veut savoir pourquoi il est égaré rue de Ranchicourt, dans le coron. Le notaire prétexte un rendez-vous professionnel. À une heure aussi tardive, la police n'y croit pas. L'homme s'embrouille, puis finit par concéder qu'il avait rendez-vous avec sa maîtresse, Monique Mayer. Il explique vouloir rester discret quand il lui rend visite, car Monique est en instance de divorce avec l'un de ses amis. Elle habite une belle villa blanche, surnommée le Château par les gens du coron, avec un grand jardin qui donne sur la rue de Ranchicourt. Une haie le sépare du terrain vague où serpente un petit chemin. Pour se rendre chez sa maîtresse, le soir du 5 avril, Leroy dit avoir emprunté ce sentier afin de ne pas être vu. Or, le corps de Brigitte gisait à 8 mètres à peine de la haie de Monique Mayer. Le notaire est passé par là, pourtant, il n'a rien remarqué. Et il affirme même qu'il ignorait qu'un cadavre de jeune fille avait été retrouvé à cet endroit. Ces déclarations laissent les enquêteurs perplexes. La suite de l'interrogatoire ne va qu'accentuer leurs soupçons. Le notaire se contredit, dit qu'il s'est garé rue de Ranchicourt à 20h30. Chantal, l'infirmière, est formelle. Elle a vu la voiture à 20h10. Où se trouvait-il durant ces 20 minutes d'intervalle qui correspondent précisément à l'heure à laquelle Brigitte aurait été tuée ? Le roi ne donne pas d'explication claire, mais il ressort libre du commissariat.
Maître Leroy est-il coupable ou innocent ? Cette première journée d'interrogatoire n'aura pas permis de l'établir. Ce matin, à son arrivée au palais de justice de Béthune, le notaire de Bruet semblait détendu et confiant.
Convoqué à nouveau le 11 avril, il se montre tout aussi incohérent sur son emploi du temps. Oui, il admet s'être trompé dans les horaires, mais il ne parvient pas à justifier les 20 minutes d'écart. Et oui encore, il était au courant de la mort de Brigitte lors de sa première audition. Il a menti. Pierre Leroy devient le suspect numéro 1, même si les charges qui pèsent contre lui sont minces et que les perquisitions n'ont rien donné.
Que faisait Pierre Leroy au moment de l'assassinat de Brigitte ? Ce soir, la question reste posée. Le notaire n'arrive pas à retracer son emploi du temps. Cet oubli l'accuse, mais par ailleurs, aucune preuve matérielle formelle n'a encore été relevée contre lui. Toutefois, pour le juge Pascal, les présomptions qui pèsent sur Pierre Leroy sont graves.
Maître Leroy proclame son innocence.
Ah oui, il proclame son innocence, bien sûr.
Est-ce que vous
il ne la proclame pas. Il l'a dit.
Est-ce que vous avez des preuves matérielles ?
Quand on dit proclamer, il veut dire crier. Non, il n'y a pas de preuves matérielles caractérisées. Tout repose sur des raisonnements logiques, des déductions.
L'affaire s'avère complexe. Le juge Pascal hésite à inculper cet homme qui ne cesse d'affirmer tranquillement son innocence. Un incident va le pousser à le faire. Pendant la garde à vue, Monique Mayer apporte une couverture à Leroy. Un petit papier tombe par terre. Elle y a écrit « Je ne puis affirmer avoir parlé du meurtre ». Que signifie cette phrase ? Les amants sont-ils de mèche pour dissimuler quelque chose ? Sont-ils complices ? Le 13 avril, Pierre Leroy est finalement inculpé pour homicide volontaire et déféré devant le juge de Béthune. La presse et le coron s'emballent. Le notaire a beau clamer son innocence, il ne convainc personne. Ni la presse, ni l'opinion publique. Les images de ce monsieur bien comme il faut, menottes au poignet, font les gros titres des quotidiens et des journaux télévisés. Il faut dire que cette affaire de Bruet en Artois n'est pas une affaire comme les autres. Elle concentre tous les éléments de la lutte des classes, tous les ingrédients du combat des pauvres contre les riches. Il y a d'un côté un bourgeois nanti soupçonné d'assassinat, et de l'autre une fille d'ouvrier morte dans des conditions atroces. Pour les habitants des corons, aucun doute, le notaire est coupable. Et lorsqu'on apprend qu'il fréquentait des prostituées, la machine à fantasmes s'emballe. Le notaire devient un monstre pervers, un dévoreur de petites filles. Mai 68 est passé par là, et des maoïstes vont s'emparer de l'affaire et se placer, bien sûr, du côté du peuple qu'on assassine. « Et maintenant, ils massacrent nos enfants », titre la cause du peuple. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir prennent position. Les militants de la gauche prolétarienne créent un comité pour la vérité et la justice. Ils installent leur QG sur le terrain vague à Bruet. Ils organisent des manifestations, tiennent un cahier de doléances à disposition de ceux qui veulent soutenir les parents de Brigitte et le juge Henri Pascal. Ce magistrat atypique milite pour que les hommes de loi descendent de leur tour d'ivoire et aillent à la rencontre des justiciables. Pour lui, le droit à l'information est aussi nécessaire que le secret de l'instruction pour mener une investigation. Il alimente donc sans réserve les journalistes qui font le pied de grue à la porte de son bureau. Même si l'enquête n'a pas permis d'éclaircir toutes les zones d'ombre, le juge s'est forgé ses propres convictions. Et l'absence de preuves n'entame en rien sa certitude que Pierre Leroy est coupable. Pourtant, lors d'une reconstitution organisée par la justice, aucun témoin n'a reconnu dans le notaire l'homme au col roulé. Peu importe, le juge Pascal s'oppose à sa remise en liberté jusqu'au 18 juillet 1972. En effet, 3 mois après son inculpation, le notaire est finalement libéré. Les avocats de Leroy réclament une enquête en suspicion légitime envers le juge Pascal. Trop partial, celui-ci sera finalement démis de ses fonctions. Et l'enquête est délocalisée à Paris, où elle repart de zéro. Cette fois, la police a lâché la piste d'un coupable extérieur au coron. Elle s'intéresse au jeune Jean-Pierre Flahaut, le soi-disant amoureux de Brigitte. Le 18 avril 1973, le jeune homme de 17 ans est arrêté.
À 18 ans, Jean-Pierre va comparaître devant le tribunal pour enfants pour avoir volontairement donné la mort à Brigitte Devèvre. Il encourt 10 à 20 ans de prison. Les débats se dérouleront à huis clos. Les juges devront essayer d'y voir clair à travers les différentes versions qu'il a données du crime.
L'homme au col roulé, c'est moi, avoue-t-il à la PJ parisienne. J'ai poussé Brigitte. C'était un accident. Elle est tombée. J'ai paniqué, pris ses lunettes et je les ai cachées. En effet, la police retrouvera une paire dissimulée dans un fauteuil chez sa mère. Mais Jean-Pierre se rétracte aussi vite qu'il s'est dénoncé. D'ailleurs, les parents de Brigitte ne croient pas un instant aux aveux du gamin. Ils demeurent persuadés que le notaire a tué leur fille. Un enfant du pays ne peut pas avoir commis un tel crime. À leur demande, leur avocat, Maître Kiegemann, réclame l'acquittement du jeune homme. Tout au long du procès, il a répété en boucle « J'ai pas tué, j'ai pas tué ». Il est innocenté en 1975, après 2 ans de prison.
Que va-t-il se passer? Nous espérons maintenant qu'on ouvrira un complément d'enquête et nous ferons tout, nous nous battrons pour l'obtenir. Même après 3 ans et demi, il me faut le meurtrier de ma fille, ça, le ou les meurtriers, il y en a un et il me les faut. Et on se battra pour le trouver. Ça, il est évident que si la justice fait son travail, elle le trouvera.
C'est une nouvelle impasse. Le ou les coupables courent toujours, impunis. L'année d'avant, une ordonnance de non-lieu avait été prononcée en faveur de Pierre Leroy et de Monique Mayer. En 1977, la commission d'indemnisation des justiciables détenus à tort alloue 280 000 francs de dommages et intérêts au notaire et 120 000 francs à celle qui est devenue sa femme. Avec l'acquittement de Jean-Pierre, les dernières pistes s'effondrent. À jamais, puisque l'affaire est classée sans suite en 1981. Le meurtrier de Brigitte n'a pas été retrouvé. Après avoir été blanchi, Pierre Leroy a continué d'exercer durant 25 ans à Bruay-en-Artois. Il est mort en 1997. Tout comme les parents de Vèvre, qui reposent désormais auprès de leur fille dans le cimetière de Bruay. En 2016, Daniel Bourdon, un ex-flic originaire de la commune, a mené des investigations pour tenter de retrouver le bourreau de l'adolescente. Il a consacré 2 ouvrages à cette affaire. Et ses recherches l'ont conduit sur la piste d'un troisième homme, qui n'est ni Pierre Leroy, ni Jean-Pierre Flahaut. Sa contre-enquête n'est donc pas terminée. Mais la vérité n'éclatera sans doute jamais. Les faits sont prescrits. Et dans la petite ville, renommée Bruay-la-Buissière, l'incertitude demeurera pour toujours. À défaut d'avoir su protéger son enfant, l'ancienne houillère préfère oublier.
Ce texte, écrit par Isabelle Spack et adapté par Bénédicte Aubry et Elsa Delaverne, a été enregistré par Diane Mottez. Mixage de Julien Louette.
Vous avez écouté Fait d'hier. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle affaire criminelle.